Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Avec 10 000 mariages de couples homosexuels célébrés en France l'année dernière, on pouvait se dire « ouais, ça y est, c'est acquis ». C'est bon, c'est terminé, ces veilleurs qui prient sur la place publique, toutes bougies allumées, ces tweets ouvertement homophobes, ces regards de biais. SOS Homophobie nous ramène à la réalité aujourd'hui en publiant son rapport annuel sur l'homophobie. En 2014, l'association a ainsi recueilli 2197 témoignages de victimes. Certes, c'est moins que l'année 2013, année noire où les partisans de la manif pour tous déversaient leur haine sans honte, mais ce chiffre démontre, selon le président de l'association, Johan Rosevitch, que l'homophobie s'enracine. Comme le note le rapport, malgré la baisse générale de 40% du nombre de témoignages, les agressions physiques ne baissent que de 14% en un an. Une jeune femme témoigne. J'ai été violée par un homme que ça amusait d'essayer de rendre une lesbienne hétéro. Les insultes, elles, atteignent presque la moitié des témoignages. Extrait, sale pédé, vous êtes le sida. Et comme les homophobes sont de plus en plus courageux et que le web délie les langues puantes, 40% des agressions ont lieu par Internet. On ne doit jamais se dire « ouais, ça y est, c'est acquis ».
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, c'est Back in the 90s avec le retour de Dirty Hands et du Casbah Club en live. Mais d'abord, la saison 5 est actuellement diffusée aux États-Unis et rapidement en France par des moyens plus ou moins approuvés par Adopi. Vous n'avez pas pu passer à côté, sauf si... Non, vous n'avez pas pu passer à côté. Même mes parents sont accros. Game of Thrones est le phénomène de cette décennie et on va essayer de comprendre pourquoi.
Je suis Games of Thrones, j'ai commencé avec les bouquins. Ouais. Que j'ai adoré. Donc dès que la série est sortie, j'ai commencé à regarder et j'ai surkiffé.
Alors j'ai vu les trois premiers là.
Ouais.
Et j'ai surkiffé quoi. Ouais.
C'est le fait en fait que les persos méchants soient pas vraiment des persos méchants et que les gentils soient pas complètement gentils non plus et que chaque personnage puisse avoir sa part de noir et sa part de blanc.
Je sais pas, j'aime tout ce qui est on va dire un peu médiéval, donc c'est un peu dans l'univers monde médiéval, des chevaliers un peu.
Parce que je suis une grande amatrice de séries et que forcément quand on est amatrice de séries, Game of Thrones fait partie du paysage des grandes séries à regarder.
Ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai trouvé que y a plein de personnages et il y a plein d'histoires en même temps qui se regroupent généralement dans la fin des saisons, ouais. Si j'ai bien compris le truc. Tous les personnages sont hyper travaillés, ils ont tous un caractère assez hors du commun et je trouve que c'est assez bien mis en valeur.
C'est violent et il y a plein de personnages, on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages parce qu'ils meurent tout de suite en fait.
C'est une des rares séries que j'ai vues comme ça, où on s'attend jamais à ce qui va arriver et où on est toujours surpris.
Il y a un suspense qui est quand même bien parce que du coup ils préparent bien, ils prennent le temps de préparer la fin de la saison dans les premiers épisodes. Ce qui fait qu'on arrive à des trucs assez impressionnants généralement.
Qu'est-ce qui m'a marqué dans Game of Thrones si je disais le sang et le sexe, ce serait un petit peu comme tout le monde.
Un micro-trottoir qui a été réalisé par Valentin. Voilà, en studio à un fan de la première heure. Lui, il ne s'y est pas mis quand tout le monde s'y est mis, non. Lui, il a lu les bouquins avant de voir les épisodes. Bonjour Martin.
Bonjour.
Comment est-ce que vous êtes, vous, tombé amoureux de Game of Thrones? Pardon pour la prononciation, ça va être comme ça pendant une demi-heure.
Pas de soucis pour la prononciation. Alors j'ai commencé en tombant sur le bouquin par hasard, j'avais été attiré par la couverture tout bêtement dans une librairie et j'ai lu le pitch à l'arrière et tout de suite je me suis dit que ça me plaisait, c'était une librairie anglophone et je me suis dit que c'était un bon bouquin qui restait une lecture assez facile pour pouvoir se permettre de se lancer, c'était pas une littérature trop classique et c'était dans un domaine que j'aimais bien, comme je suis un fan de la première heure aussi du Seigneur des Anneaux et de toute l'œuvre de Tolkien. J'ai décidé de me lancer et j'ai pas été déçu, donc quand j'ai appris que la série sortait, j'ai sauté dessus dès que j'en ai eu les premiers échos.
Pour ceux qui n'ont pas lu ni le livre de, donc on va rappeler son nom, il s'appelle George R. R. Martin. Pour ceux n'ont pas lu le bouquin, pour ceux qui n'ont pas lu non plus Tolkien, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est une même écriture déjà dans le livre ?
Alors, c'est pas le même type d'écriture. Tolkien est extrêmement... c'est une écriture linéaire. On découvre d'abord un décor, ensuite l'histoire se pose et les personnages nous font vivre leur histoire. Mais on est spectateur de leur histoire. Dans l'écriture de George R. R. Martin, je vais le prononcer aussi comme ça.
Merci.
Ça va être plus, on voit en fait chaque personnage a un chapitre qui lui est consacré ou deux. Et on voit l'histoire à travers ses yeux, on a ses propres réflexions. Donc pour ça, ça change. Et après, l'écriture de Tolkien est quand même aussi beaucoup plus classique et peut-être un peu plus ancienne, j'ai envie de dire, même si celle de Martin est... On sent qu'il a voulu mettre quelque chose de médiéval aussi dedans. Les termes qu'il utilise sont aussi souvent un peu médiévaux et pas forcément très modernes. Mais ça rend l'histoire d'autant plus crédible.
Alors vous êtes à la base, on a cru comprendre, un fan quand même de cet univers-là, ce qu'on appelle fantasy en fait.
C'est ça.
Mais ce qui est magique avec Game of Thrones, c'est que même ceux que la fantasy répugne aiment cette série. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que là, ça ne dérange pas en fait que ce soit un univers fantasy ?
Bah, peut-être qu'à la différence du Seigneur des Anneaux, ce qui pourrait rebuter certains, c'est que dans le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de races très très différentes. Par exemple, il y a les orques, il y a des monstres, il y a le Balrog, des créatures qui sont des divinités. Certains sont des mi-anges, mi-hommes, comme Gandalf, qui est une sorte de divinité, par exemple. Ce que peu de personnes savent, en fait. Alors que dans Game of Thrones, la plupart des personnages sont, en tout cas, entièrement humains. Il y a quelques dragons, mais on peut quand même beaucoup plus s'identifier au personnage vu que c'est difficile de s'identifier à un orque, c'est ça que je veux dire.
Et les personnages, même les pires, on s'y attache, c'est-à-dire que tout le monde aime ce cynique nain, Tyrion.
Exactement. Tyrion, c'est un des personnages favoris des gens, peut-être aussi parce que les gens arrivent à s'identifier à lui parce qu'il est plein de défauts, y compris physiques et on va dire même moraux, psychologiques. Il est cynique, il est froid, il est calculateur, il aime manipuler les gens. Et je pense que si les gens s'attachent vraiment à lui, c'est aussi parce que il représente un peu tous nos défauts poussés à l'extrême, en tout cas beaucoup de nos défauts poussés à l'extrême, et que c'est pour ça que les gens ont autant de facilité à s'identifier à ce personnage.
Et les gentils nous agacent presque, en fait.
Certains personnages peuvent agacer, c'est vrai. Après, ça dépend aussi probablement du caractère des gens. C'est tout l'intérêt de Game of Thrones, vu que, comme on le disait certains dans le micro-trottoir, il y a énormément de personnages, donc on peut facilement trouver au moins un personnage dont on se sent le plus proche, voire plusieurs. Et ça diffère vraiment dépendant des gens. C'est vrai que moi j'ai un faible pour beaucoup de personnages qui ont un mauvais fond. En tout cas, par exemple Tywin Lannister, c'est un de mes personnages préférés. Et pour les personnages qui sont très très ambivalents aussi, qui nagent un peu dans le noir, dans la lumière, et comme Tyrion aussi finalement. On sait qu'il a un bon fond. Il y en a d'autres aussi. On met du temps à le découvrir. Et il y en a où on se pose encore la question. Par exemple Lord Varys. On peut imaginer qu'il veut vraiment servir le royaume, comme il le dit, mais c'est un personnage qui entretient beaucoup le mystère et il n'est pas le seul, donc ça donne toujours envie de voir la suite. Ouais.
Et est-ce qu'on peut considérer Game of Thrones comme une série féministe, puisque les femmes dans cette série ne sont pas que des faire-valoir, comme on peut le voir dans beaucoup de séries, ce ne sont pas que les femmes des rois. Non, non, elles ont un vrai rôle.
Ah oui, les femmes ont une vraie place dans cette série. C'est vrai que ça fait plaisir de voir autant de personnages masculins et autant de personnages féminins. Il y a vraiment une balance et on les suit à part égale, puisqu'il y a beaucoup de personnages féminins forts. Je pense à Ygritte, Shay, Cersei, Catelyn Stark,
Arya,
et bon, d'autres qui sont un peu moins importants à mes yeux, comme Sansa par exemple, que je ne peux pas la voir. J'ai beaucoup de mal avec Sansa. Mais oui, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des femmes qui ont des rôles majeurs. Et puis j'oublie évidemment Daenerys Targaryen, la mère des dragons.
Qui ressemble plus ou moins à Shakira quand même.
Un petit peu, c'est ça. Oui.
Ce qui est aussi assez culotté de la part des scénaristes, enfin de Martin à la base quand même, c'est de buter, alors pas de spoil, on essaie, pas de spoil, de buter quand même qui veut en fait, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si les personnages qui prennent une ampleur pendant une saison ne vont pas se faire buter à la fin.
C'est vrai, mais alors il y a une théorie que j'ai lue qui m'amuse beaucoup, que j'ai découvert sur internet, c'est quand on voit un personnage et qu'on découvre une partie plus humaine de cette personne, surtout à la base si on avait des a priori sur cette personne, si on la rend plus humaine, c'est qu'on va s'attacher à elle, et que cette personne va probablement mourir bientôt. pour nous faire souffrir derrière. Mais c'est vrai qu'après, l'auteur s'amuse quand même beaucoup à nous arracher des personnages auxquels on s'est vraiment attaché, auxquels on tient, qu'on a envie de voir survivre dans ce monde de brutes. Et il y a beaucoup de morts qui sont déchirantes et qui peuvent même clore une saison avec brio.
On pense à la saison 3.
Oui, la saison 3, la saison 4 aussi.
Game of Thrones, c'est une série aussi qui joue avec les valeurs qui semblent installées dans notre société. Alors voilà, on va avoir un frère qui saute sa sœur, on va buter des gamins comme ça. Enfin, on va très loin, quoi. Et il y a, on l'a entendu dans le micro-trottoir, beaucoup de cul. Et là, il n'y a pas de floutage, quoi. On montre tout.
C'est vrai. D'ailleurs, on montre tout, homme comme femme, et t'avais raison de le souligner tout à l'heure en disant que c'était pas forcément une série féministe, mais au moins une série peut-être au moins égalitaire, parce que c'est vrai que dans beaucoup de séries, on a tendance, quand il y a des hommes qui sont nus, on va cadrer de manière à ne rien voir, alors que les femmes sont généralement montrées entièrement, alors que là, il y a des personnages hommes et femmes qui sont montrés complètement à walpé, et j'ai eu des bons retours de la part de certaines amies qui étaient très contentes de voir ça, donc je suppose que c'est une bonne chose pour la série de toute façon.
Mais c'est quelque chose qui est quand même rare, non, dans les séries actuellement,
très, très
de jouer
rare.
Autant avec les valeurs, avec le cul, la nudité.
C'est très très rare, et puis même si dans certaines séries on peut avoir un mince aperçu, là c'est limite à quasi chaque épisode, on en voit, il y a tous les lieux pour ça, on voit des maisons closes, il y a des scènes de viol, il y a des scènes de torture, je pense à... Bon, il faut pas que je spoil. Il y a certains personnages qui sont torturés dans des manières qui vont les atteindre particulièrement dans leur identité physique, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que l'auteur en joue beaucoup aussi de ça. Il va très très loin et ça pousse limite parfois à la provocation. Ouais.
Il y a quelque chose qui est étonnant avec Game of Thrones, c'est la longueur du générique pour rentrer dans un épisode. Je vous propose qu'on écoute un peu ce générique. Voilà, donc il n'y aura pas d'épisode à la suite de ça. 1 minute 40 de générique, c'est extrêmement rare.
C'est vrai que c'est extrêmement rare. Je pense par exemple au contraste qu'on peut avoir avec des séries comme Breaking Bad, par exemple, qui a un générique qui arrive après, ça dépend des fois, mais entre 5, 10, voire même parfois un quart d'heure après le début de l'épisode, qui est extrêmement court. Quelques pulsations, le petit jingle, le titre qui s'affiche et on rentre dans l'épisode.
Ou Girls, la série Girls, où il y a juste un aplat, c'est écrit Girls et ça dure 10 secondes.
Alors je vais moins pouvoir témoigner sur cette série-là, mais je vous crois sur parole. Effectivement, mais c'est vrai que le générique de Game of Thrones, c'est vrai qu'il y a un casting tellement, tellement vaste qu'il faut du temps pour mettre tous les noms à l'écran, pour qu'on puisse les voir. Bon, évidemment, il y a ceux qui sont au premier plan, qui vont être cités en premier, qui vont avoir leur place à eux, alors que plus on avance dans le générique, on va voir 3 ou 4 noms en même temps. Mais il faut quand même du temps et le générique a été très travaillé. C'est vrai qu'il y a eu un travail vraiment impressionnant. Ces espèces de maquettes qui sortent du sol, qui font tous les lieux, les routes, les endroits importants qui peuplent la série.
Et qui permettent de réviser la géopolitique du Westeros un petit peu.
C'est vrai parce que si on quitte un petit peu cet univers pendant quelques temps ou si on regarde autre chose, si on se consacre à son travail, ça peut être un peu difficile parfois de reprendre un peu les personnages et de savoir où ils en sont sur la carte. Et ça parle quand même de bataille, de guerre, et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir resituer avec des symboles et la musique, voir où en sont les personnages dans l'histoire pour rattraper le fil.
L'épisode 5 de la saison 5, qui est sorti, si je me gourre pas, dimanche dernier,
c'est ça,
a battu le record du monde des téléchargements illégaux 12 heures à peine après sa diffusion à la télé. L'épisode a été téléchargé illégalement plus de 2,2 millions de fois à travers le monde. Est-ce qu'une série comme Game of Thrones, ça remet un petit peu en question voilà, cette problématique de diffusion, du temps de la diffusion et puis du téléchargement?
Alors peut-être, probablement même. Après, pour le téléchargement, c'est une question qui date quand même pas d'hier, et c'est pas la première série qui fait les frais du téléchargement illégal. Je pense que maintenant les producteurs, les scénaristes, tous maintenant sont au courant que c'est quelque chose qui est ancré. De plus en plus de gens savent le faire, de plus en plus tôt savent comment détourner Adopi ou dans d'autres pays, par exemple en Allemagne c'est la GEMA, enfin toutes les institutions qui protègent les droits d'auteur et les droits à l'image. Ça peut relancer le débat, mais je pense pas qu'on puisse changer de conclusion. Les gens continuent à télécharger pour des raisons qui n'ont pas changé depuis le début. Le prix, l'attente aussi, les gens ont envie d'attendre et de pouvoir revoir aussi. C'est vrai que si on doit attendre que l'épisode soit diffusé à la télévision, non seulement on doit l'attendre, et en plus on peut plus le revoir après si on l'a pas téléchargé. Et beaucoup de gens aiment le revoir, ils aiment le voir seul une fois, ils aiment le revoir avec leur copine, avec leur famille, le montrer à leur pote qui revient de week-end un peu après, donc forcément le téléchargement va forcément augmenter.
On va poursuivre cette discussion, Martin, ça sera juste après Isaac Delusion avec Transistors.
Between us, like a sweet sensation, throwing the wave out like print transmissions, create a bridge between us, yeah. That's how it goes, that's how it works between us. That's how it I feel like there's a real connection, traveling in the air like blowing in the wind, just like our minds keep throwing the signals, our head like transistors keep on receiving, yeah.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir dans le sous-marin, on part de Game of Thrones avec un fan de la première heure, Martin. Et la première heure, en tout cas en termes de série télévisée, ça a commencé en 2011. Comment expliquer que tout le monde se soit emballé il y a 1-2 ans maximum?
Je pense que c'est dû premièrement au fait que la série a mis le temps à percer déjà aux États-Unis, là où elle est produite. Majoritairement, puisque les acteurs et les producteurs se déplacent aussi dans d'autres pays pour filmer certaines scènes. Mais surtout, il a fallu que ça prenne de l'ampleur déjà sur le territoire des États-Unis. Et une fois que ça s'est emballé là-bas, Les producteurs ont dû décider d'exporter la série tout de suite en voyant que ça marchait bien, que ça allait pas être juste un épisode et quelques un pilote et puis quelques épisodes derrière. Et tout de suite, ils ont fait appel aux traducteurs déjà du livre, parce que vu que ça perçait, forcément les gens ont voulu se reporter sur le livre, et ensuite faire traduire la série, plus le sous-titrage, et c'est arrivé un peu en catastrophe d'un coup. On nous l'a bombardé à la figure sur toutes les chaînes, sur Internet, sur toutes les plateformes, c'est tourné dans tous les sens, sur Twitter, Facebook, et on s'est retrouvé avec l'emballement qu'on a aujourd'hui finalement.
Et à la veille de la sortie de la saison 5, on va parler d'emballement justement. Le journal Le Monde, dans sa version papier, ce qui est quand même pas rien, a consacré une double page à la géopolitique de Westeros. Sur le site du Courrier International, il y a un onglet qui est consacré à Game of Thrones et qui recense des articles du genre « La géopolitique du Moyen-Orient expliquée par Game of Thrones »,« Comment la théorie marxiste nous aide à prédire la fin de Game of Thrones » ou alors « Comment l'hydromel est devenu la boisson des hipsters ». Grâce à Game of Thrones, on n'en fait pas un peu trop quand même?
C'est vrai que ça peut aller très très loin. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que George R. R. Martin, c'est un auteur qui a plus de 60 ans maintenant. C'est un auteur qui a été bercé dans une littérature très différente de la nôtre, qui avait des lectures que je trouve aujourd'hui plus faciles que celles de nos parents. Par exemple, eux, ils ont eu 1984, Fahrenheit 451, ils ont eu tous les classiques, enfin voilà. Alors qu'aujourd'hui, nous, on se retrouve, bon, je veux pas faire de généralité, mais on nous sort quand même beaucoup de Twilight et autres Fifty Shades of Grey ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que l'auteur, lui, il s'est inspiré aussi beaucoup de la vraie vie. Comme tu dis, un article qui dit le Moyen-Orient expliqué par Game of Thrones. C'est peut-être aussi que l'auteur s'est inspiré du Moyen-Orient pour créer, par exemple, les Dothraki, justement, dans Game of Thrones. Ça peut être la théorie marxiste, ou même la religion. Là, par exemple, je veux pas spoiler, mais dans la saison 5, la religion va prendre une certaine ampleur qu'elle avait déjà, mais elle va être encore plus exacerbée. On voit certains rapprochements avec des religions qui existent dans le monde réel. Donc peut-être qu'on peut expliquer effectivement certaines choses du monde réel par Game of Thrones, mais Game of Thrones prend aussi ses racines dans le réel.
Et vous parlez de spoil tout de suite, voilà. Avec Game of Thrones, je crois qu'on a tous découvert le concept de spoil et on vit dans l'angoisse tous les jours, finalement, quand on va sur le web, de cliquer sur un truc qu'on n'a pas du tout envie de voir. Ça, c'est un phénomène. Le spoil, ça a quand même... Alors, peut-être que je débarque, hein, mais j'ai l'impression que ça a quand même pris une ampleur folle avec cette série-là.
C'est vrai, mais c'est vrai que c'est une série avec laquelle il faut particulièrement faire attention. Je vais refaire encore une petite comparaison avec Breaking Bad. Breaking Bad, c'est vraiment une série dont on est spectateur. Il y a énormément de gens qui ont adoré, beaucoup de gens qui ont détesté. Ceux qui ont détesté disent qu'il y a des lenteurs, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lenteurs dans Breaking Bad, mais il faut aussi savoir apprécier ce qu'on voit. C'est très bien filmé, le jeu d'acteur, même avec les silences, permet de passer outre. Et bah, c'est difficile à spoiler du coup Breaking Bad, parce qu'on peut pas spoiler des moments où il y a des silences, mais on voit qu'il se joue quand même quelque chose. Alors qu'avec Game of Thrones, il suffit d'une phrase... Et
une boulette.
Juste une boulette, et on peut dire machin a tué machin, ou alors si on dit juste la petite phrase de trop, ou en voulant pas spoiler mais en taquinant quand même l'autre en disant moi je sais, on peut laisser échapper quelque chose qui va faire que l'autre va se douter qu'il va se passer quelque chose pour ce personnage là, que tel personnage va mourir, que tel personnage va tomber amoureux de celui-ci. Donc c'est vrai qu'il y a tellement de personnages et tellement de choses qui se passent dans un seul épisode que c'est très dur de pas spoiler Game of Thrones. On est vraiment pas à l'abri.
À l'heure actuelle, il existe 5 tomes de la saga signés à Martin. Il n'en a pas écrit d'autres cette année, il n'y a pas de 6e tome. Comment est-ce que les scénaristes de la série peuvent se passer de l'écriture de Martin?
Pour le moment...
Parce que pour le moment, c'était une saison, un tome?
Oui, c'est ça. Pas entièrement, parce que les producteurs et scénaristes ont dû rattraper le retard. Il y avait déjà plusieurs bouquins qui ont été sortis avant le début de la série. Mais il a fallu quand même donc rattraper ses premières séries, mais l'auteur a quand même voulu faire partie du projet. Donc il est venu les aider, il leur a donné la fin. Les deux producteurs connaissent la fin de Game of Thrones. Et il les a aidés à monter pour que ça corresponde à son univers. C'est vrai que c'était quand même son univers, et pour accepter de le léguer à des studios qui sont quand même un peu proches des studios hollywoodiens, quand même, faut bien le dire, il avait peut-être un peu peur qu'on en fasse n'importe quoi. Et il s'est consacré aussi à la série et moins sur son écriture. Et là, on arrive avec la saison 6 qui va commencer sa production l'année prochaine. Et l'auteur a dit qu'il allait se concentrer plutôt sur l'écriture de son prochain ouvrage pour pouvoir laisser les scénaristes se débrouiller comme des grands, pour que lui puisse continuer à avancer sa série de livres, pour que les gens puissent continuer à suivre les deux supports en même temps.
Et ça, pour les fans de Martin, ça passe ?
Ah oui, évidemment, ça passe, parce que il a donné quand même des instructions très claires, il a déjà posé, au moins sur 5 saisons, des bonnes bases pour que les scénaristes puissent partir vraiment dans la direction qu'il espérait. Peut-être que maintenant, ils vont pouvoir prendre quelques libertés et être un peu plus libres, mais le changement n'est pas forcément mauvais. Et puis, de notre côté, on peut être que ravis de la sortie des nouveaux livres et d'en savoir plus avant même que la série sorte, pour ceux qui sont amateurs de lecture.
Dernière question, Martin. Winter is coming. Winter is coming, oui, mais Winter is coming quand, en fait ? Parce que ça fait 5 ans que Winter is coming, quoi.
Winter is coming. Eh ben, Winter is coming closer, parce que ça se rapproche. On l'a vu déjà quelques images assez alarmantes. On a vu... alors, je peux pas non plus spoiler la dernière saison, ni le début de la saison qui est en cours. Je vais rester sur la saison 4. On a quand même vu l'armée des White Walkers qui se ramenait justement de plus en plus près du mur, qui passait à côté de Samuel Tarly, donc le petit gros bibliothécaire qui est un des corbeaux, et qui a réussi à en tuer un. Donc il s'aventure déjà de plus en plus vers le mur. Et on a vu leur armée au complet, et on a vu aussi le roi des White Walkers prendre un bébé et utiliser son pouvoir pour le transformer juste en le touchant. On a vu ses yeux devenir bleus comme les siens. Et donc Winter is coming de plus en plus près.
Les boules. Merci beaucoup, Martin,
d'avoir été
avec nous.
Merci.
c'était les Dirty Hands avec Distant Light.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Il a existé, avant les internets, des groupes de rock qui n'avaient ni MySpace, ni Facebook. Des groupes qui ont splitté, comme on dit dans les arocs, mais qui ont auparavant bel et bien vécu et écumé les scènes de cette fin de 20e siècle. Pour faire vivre une seconde existence, si on peut dire à cela, deux fans de rock, Frank Fresnik et Eric Souris, ont décidé de remonter un label, le bien nommé 19 Something, un label qui organise un concert le 21 mai au Boléro, une soirée produite par Ultrason, dont on a la coordinatrice ce soir. Bonjour Cyrielle.
Bonjour.
En studio également, Casbah, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Leader du Casbah Club, dont on va parler tout de suite, mais d'abord, coupons court à toutes mes ententes, vous prévenez dans votre communiqué de presse, à tous ceux qui penseraient que le label pratique l'archéologie musicale, c'est-à-dire l'étude des sons disparus, nous leur conseillons de prêter une oreille toute attentive à ces groupes, ils s'apercevront que l'émotion, la fureur et le bruit sont toujours bien vivants. Vous nous assurez donc qu'il n'y a aucune nostalgie dans cette soirée-là.
Ça c'est les gens qui le diront après le concert, et quant à nous, non, je pense pas que ce soit de la nostalgie, ça fait partie de notre vie, et vu que notre vie n'est pas terminée, on reprend du service occasionnellement en fonction de l'envie et des projets qui sont proposés.
Est-ce qu'on peut parler du label 19 Something et essayer d'expliquer comment l'idée est née?
Alors c'est Eric Souris qui était donc le chanteur-guitariste Detox, qui a quitté Angers maintenant, qui habite plutôt dans l'est de la France, qui m'a appelé et qui me dit, voilà, Casbah, je suis en train de monter un label. Il est toujours en train de monter des trucs, Eric. Hein. Il avait monté déjà le magasin Black & Noir, puis le label Black & Noir. Il a aussi monté les Tux, donc c'est son truc. Il faut qu'il fasse des choses. Et il m'appelle, il me dit, voilà, j'envisage de créer un label numérique sur lequel on retrouverait donc tous les groupes que moi j'ai bien aimés des années 89, 99, en gros. En gros, l'ère avant Internet, comme tu disais tout à l'heure, avant Facebook, avant tous ces trucs-là. Et les groupes qui n'ont pas passé justement le tir de barrage du net et qui sont maintenant pas forcément, qui n'apparaissent pas forcément dans les radars de toute une population, quoi. Et donc, l'idée, c'est un peu de ressortir comme ça des limbes, des groupes qui soit avaient des cassettes démo. Donc, je dis les cassettes, c'est les bandes magnétiques, hein. C'est pas... Ça a vraiment existé.
Et oui, ça existait.
certains groupes avaient fait des vinyles, d'autres n'avaient rien fait du tout. C'est à peu près le cas du Casbah Club. Et puis de remettre ça en ligne, en fait, à la disposition du public, une espèce de bibliothèque d'Alexandrie du rock, quoi. Avec, il y a un côté archéologique effectivement. Donc l'idée, c'était que ça soit disponible sur le net en deux clics. On avait accès à. Alors pour l'instant, le catalogue va petit à petit s'enrichir. Il a commencé par mettre en ligne tous les albums des Tux. On peut aussi les acheter, les télécharger. Enfin, il y a tout un système après. De suivi à ce niveau-là. Et puis, donc, il étend petit à petit sa toile d'araignée, donc les Dirty Hands, le Casbah Club, les Thompson Roulette, un groupe de Périgueux également, les Scuba Drivers, et puis il y en aura encore pas mal, je pense.
Alors, vous êtes sur Radio Campus Angers. Beaucoup d'entre nous n'ont pas connu les années 80. Ça ressemblait à quoi la scène rock angevine en 80-90? On entend souvent parler que des Tugs, alors dites-nous en plus, quoi.
La scène rock angevine, il y avait des... Moi, je me rappelle, pour moi, elle a vraiment démarré en 83-84, en fait, au début de l'aventure des Tugs, à laquelle nous, on a participé en tant que public, finalement. C'est juste que c'est une rencontre qui s'est faite entre nous qui avions entre 16 et 18 ans et les Tugs qui démarraient aussi. Donc, elle s'est un petit peu cristallisée autour des Tugs. Il y avait déjà des groupes qui avaient existé auparavant, mais... il n'y avait pas énormément de concerts, on pouvait pas parler, il n'y avait pas vraiment de tournée non plus, c'était beaucoup moins structuré toute la scène, il n'y avait pas de label, il n'y avait pas de choses comme ça. Donc le vrai démarrage pour moi, c'est le début des Tugs à peu près. Il y avait Seconde Chambre aussi, qu'on retrouvera d'ailleurs peut-être sur le label 1970, Hydraulic System, il y a eu les Specimens. Ensuite, petit à petit, autour de, je dirais que les Tugs, c'était un peu l'étincelle qui a servi à booster un peu tout le monde. Et puis nous, à force de voir les groupes, enfin de voir les Tugs sur scène, on s'est dit pourquoi on ferait pas pareil. Et donc ça a donné envie à plein de gens comme ça de s'y mettre, et la scène angevine, enfin rock, elle part de là pour moi.
Et avec le Casbah Club, donc, on va présenter aux auditeurs Casbah Club, du pseudo de son leader en fait, Casbah.
Oh là là, non, c'était...
Ça s'est fait dans l'autre sens.
Ouais, c'est un mélange des deux en fait, ouais. C'est un peu de mégalomanie et un peu de dans l'autre sens, voilà.
Né en 89.
Ouais, c'est le groupe qui est né en 89. Oui. Hein.
Et donc c'était ça, c'était à la suite des Tugs, à force de voir des concerts, comment c'est né Casbah Club?
Ben parce que on écoutait tous de la musique, on allait dans les concerts, on voyait des copains, donc les Tugs qui étaient en train de jouer, ça avait l'air de plaire aux filles, on s'est dit tiens pourquoi pas faire pareil. En plus on était un peu dans la logique punk rock, c'est-à-dire tu sais pas jouer mais ça doit pas t'empêcher de faire quelque chose, donc tu prends une basse, une guitare, tu fais 2-3 accords et tu montes un groupe, c'est suffisant. Et vu qu'on écoutait tous un peu aussi toute la scène Ramones, Clash et compagnie, pour nous c'était le pas a pas été très difficile à franchir en fait, donc le groupe s'est monté un peu comme ça. Et puis ensuite bah, ça a continué, donc ça a duré de 89, enfin premier concert 24 mai 90, donc ça sera presque le 25e anniversaire jeudi prochain du groupe. C'est
vous
un
faites
hasard.
Ça bien parce que je crois que le dernier concert à l'époque c'était 24 mai 96.
Ouais, on a du mal en mai, nous, je sais pas, à chaque fois il se passe quelque chose. Ouais. On s'est séparés en mai, on s'est formés en mai, c'est l'arrivée des vacances, je pense, ça doit nous perturber, et voilà. Donc non, le groupe a existé de 89 à 96, parallèlement aux Tugs, aux Dirty Hands, aux Specimens, c'était les débuts de la Ruda aussi sur la fin, et puis bon, j'oublie encore pas mal de groupes, mais c'est vrai que la scène à l'époque était quand même assez, assez bien représentée, dans différents genres surtout, c'est un peu le cas maintenant aussi hein, d'ailleurs.
Sur le site de 19 Something, il est dit que le Casbah Club a vu passer beaucoup de membres différents.
On a surtout eu des problèmes de batteur, nous, en fait. On a changé 3 fois de batteur. Pour le reste, ça a été relativement stable, quand même. On n'a pas eu la constance des Tugs, évidemment, mais c'était un peu une fratrie, les Tugs, donc c'est un peu différent. Non, c'était pas plus que les Beatles.
Pas plus que les Beatles.
Non, en gros, c'était à peu près le même modèle.
Il s'est donc écoulé 7 ans entre la formation et puis la fin du groupe. Une cinquantaine de titres composés, mais peu de traces discographiques, finalement.
Ouais.
Pourquoi ?
Parce qu'on était des glandeurs, parce qu'on n'était pas du tout organisé pour ça, que maintenant les moyens pour les groupes, notamment via Internet, via tous les sites qui existent, les logiciels et tout ça, c'est quand même devenu beaucoup plus facile d'enregistrer de la musique, de la distribuer, de la diffuser. À l'époque, fallait soit être bosseur, fallait vraiment insister, fallait faire des studios, enregistrer, graver, trouver quelqu'un pour presser le disque, fallait trouver des financements, un distributeur, une maison de disques, c'était un peu un parcours du combattant. Donc il y a des groupes comme les Tugs qui étaient un peu des staccanovistes, qui faisaient un peu tout eux-mêmes et surtout qui avaient cette espèce d'élan et volonté collective de faire avancer le groupe, que nous on n'avait pas. On est resté des glandeurs. Nous, on a toujours considéré que faire du rock'n'roll, c'était avant tout s'amuser et profiter du truc. Ceci et cela ont fait qu'on a beaucoup enregistré de morceaux en studio. Il n'y en a pratiquement aucun qui sont sortis, puisque on doit être sur 2-3 compilations. On a un 45 tours, un vinyle single chez Black & Noir. Et puis un album CD qui est sorti sur la fin de la vie du groupe en 95. Donc c'est somme toute effectivement assez, assez réduit. Et je trouvais qu'on était du coup parfaitement dans la cible 19 Something. Là, pour le coup, Eric, je lui ai dit, bah, écoute, t'as bien fait, on est exactement le groupe qu'il te faut.
On va parler de l'autre groupe qui partage l'affiche du 21 mai, Dirty Hands, créé la même année, je crois, 89, année prolifique donc. Qui forme les Dirty Hands? Alors, je crois que c'est la rencontre de deux formations, Seconde Chambre et Noodles.
Ouais, alors même ce qui est plus rigolo, c'est le clin d'œil en fait de jeudi prochain Boléro, c'est qu'à l'origine des Dirty Hands et du Casbah Club, il y avait un groupe qui s'appelait les Noodles, qui a existé aussi, qui a fait son premier album en 87-88, un 45 tours là aussi, qui était vraiment rock'n'roll, dans lequel jouaient Gilles et Doumé, qui ont ensuite formé les Dirty Hands, et Bruno dit le Xu, qui lui est parti dans le Casbah Club. Moi j'ai fait partie des Noodles sur la fin aussi, donc en gros, le Casbah Club et les Dirty Hands sont nés de la scission des Noodles en 88. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que plus de 25 ans après, ces deux groupes vont se retrouver sur la même scène. Et en gros, il y aura 4 Noodles dans la salle, quoi. C'est plutôt drôle. Et l'aventure Dirty Hands a démarré effectivement avec Doom et Gilles. Et ensuite, il y a eu Patrice, qui était le batteur de Seconde Chambre, qui les a rejoints. Ils ont eu aussi Bouchon, qui est assez connu sur Angers. Il bosse pas mal avec Joe Bitume. Enfin, il est bassiste, lui, à l'origine. Et puis, ils ont poursuivi leur itinéraire un peu parallèlement au nôtre avec le Casbah Club.
Et si on devait donner une couleur musicale à Dirty Hands?
Je dirais que c'est la vieille... je dirais que le Casbah Club, c'est le groupe de rock à blouson et que les Dirty Hands, c'est le groupe de rock à veste.
Voilà. C'est important, ça.
Ouais, c'est un peu les deux tendances du rock, je trouve. Donc, il y a un côté un peu noir, un peu plus ténébreux chez les Dirty Hands. Assez violent aussi, quand même. Ils étaient plus sur des influences Fugazi et ce genre de groupe-là, alors que le Casbah Club, on était plus la lignée Buzzcocks, Clash à l'origine. R.O.M. aussi, tout ce genre de trucs. Donc, deux couleurs différentes, quand même.
Vous avez beaucoup parlé du label Black & Noir. Moi, j'ai cherché sur Google Black & Noir et franchement, je suis tombée sur un site de lingerie coquine. Alors, dites-nous ce que c'est à l'époque, Black & Noir. Qu'est-ce que ça représente pour cette scène?
Bah écoute, si tu tapes Casbah Club, peut-être que tu tomberas sur une boîte échangiste. Pourquoi pas,
verra, finalement. J'ai essayé, mais non.
Black et Noir, c'était créé bah, justement par Eric Detogs et par Stéphane, qui est maintenant au Shabada. À l'origine, c'était un magasin de disques qui est installé rue Val-de-Maine, qui s'est monté en 1988 et qui distribuait bah, tout. On était en pleine période du vinyle, c'était les débuts des CD aussi, donc ils se sont installés là et c'est devenu également un label. Donc un peu sur les mêmes bases que 19 Something. En fait, l'idée c'était de faire émerger les groupes locaux et puis par extension tous les groupes qui contactaient Eric, qui parlaient Tugs, étaient aussi un bon ambassadeur. Il se promenait un peu partout en France avec les Tugs, donc il rencontrait beaucoup de gens, beaucoup de groupes. Donc pour lui, c'était quelque part assez facile de faire venir à lui, de recevoir des cassettes, des démos, des choses comme ça. Et donc le label s'est installé un peu avec cette motivation-là au départ, quoi. Un peu les mêmes que 19 Something 25 ans après.
Et justement, avec 19 Something, aujourd'hui, vous allez voir deux albums qui auraient dû voir le jour, en fait, il y a 25 ans.
Ouais, entre 20 et 25 ans, ouais.
Qu'est-ce que ça fait?
Bah, écoute, pour l'instant, j'en sais trop rien, parce que ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, on aura mis 25 ans pour sortir nos premiers albums. Ce qui est bien, c'est que c'est pas à titre posthume, puisqu'on va pouvoir... l'idée, c'est de jouer à peu près là, le premier album qui va sortir, Dead London Calling, c'est de le jouer donc jeudi prochain.
Quand est-ce qu'ils sortent, ces albums, d'ailleurs?
Ben, en principe, Eric est censé arriver sur Angers avec en début de semaine prochaine, donc on devrait les avoir pour le concert. Et le concert a vraiment été en fait conçu pour ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de présenter aux gens le label. C'est pas un concert pour présenter le Casbah Club ni les Dirty Hands. Je dis que le Casbah Club et Dirty Hands sont là parce qu'ils font partie de ce label et que l'idée, c'est de le faire connaître au moins aux Angevins. C'est ce que j'ai dit, Eric. C'est quand même dommage. Toi, en tant que chanteur, guitariste des Tugs, tu montes un label. Je sais que nul n'est prophète en son pays, mais le but du jeu, c'est quand même que les Angevins, au moins, sachent qu'il y a ce label, à défaut du reste de la France et du monde, mais au moins qu'à Angers, on sache que tu as fait ce label-là, qu'il existe. Et donc, la meilleure idée, c'était de faire un concert et qu'il y ait des groupes de ce label qui participent. Donc, vu que les Tugs étaient beaucoup trop chers pour la soirée, on pouvait pas les faire, vieux et cher. Et du coup, Dirty Hands avait redémarré les répètes. J'avais appris ça parce qu'ils avaient envie de jouer, visiblement, ils préparaient quelques trucs. Donc on les a contactés et on a réussi à trouver une date avec Ultrason et le Boléro pour réunir tous ces ingrédients et faire vraiment une soirée de présentation du label. Donc les gens qui vont venir à ce concert, le but du jeu, c'est qu'ils sachent, en partant surtout, qu'il y a un label qui s'appelle 19 Something. Dirty Hands Casbah Club, c'est un exemple de ce qu'on trouve sur ce label. Et il y aura les disques, évidemment, à vendre au Boléro. Ils sont tout frais sortis. Et pour les Dirty Hands, c'est un live, en fait, hein, qui sort.
Cyriel, pourquoi Ultrason a choisi de produire cette soirée? Enfin, vous êtes rencontrés, enfin, vous connaissiez avant, je sais, mais comment c'est tombé dans votre agenda?
Eh bien, en fait, c'est... P.Y., le frère d'Eric, quand on a parlé à Germain, le président de l'association, qui a parlé du label et de ses sorties et du désir de présenter le label à Angers, et qui a pensé à notre association, notamment parce qu'on a programmé récemment un groupe de son fils, et il a apprécié la soirée et le boulot que fait l'association, et du coup il a pensé à nous pour cette soirée. Donc nous, on est ravis.
Et pourquoi au Boléro?
Parce que c'est cool, le Boléro. Non, en fait,
ça fait plusieurs soirées, enfin ça fait plusieurs concerts qui se sont déroulés déjà au Boléro, mais pourquoi?
On avait envie d'un lieu en centre-ville, pas un café-concert. Enfin, du coup, on voulait que cette soirée soit un petit peu originale au niveau du lieu aussi. Nous, on a l'habitude d'organiser des concerts à l'espace culturel de l'université d'Angers. On n'avait pas de créneau à cette période-là. Donc du coup, on a pensé au Boléro en disant que ça pourrait être, avoir un côté un peu rock aussi, de jouer devant cette femme nue. Enfin, nous, ça nous faisait bien rire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais...
Bah nous, le clin d'œil, en fait, c'est que la plupart des gens qui vont venir au concert jeudi prochain, c'est des gens qui n'ont jamais pu mettre les pieds au Boléro, en fait.
C'est ce que me disait P.Y.
pour plein de raisons que je ne citerai, enfin que je dévoilerai pas, mais il y en a, la plupart, ça va être la première fois qu'ils vont enfin pouvoir rentrer légalement au Boléro. Et sans se faire sortir, en principe.
Mais ça va être qui, justement, le public, franchement?
Alors là, bah, je pense que ça va être plutôt des vétérans. Hein. Après, moi, j'incite les auditeurs de Radio Campus à venir aussi, parce que je pense pas que la musique, ça soit une question d'âge. Hein. C'est juste une manière de la faire et de la partager, de la vivre. Donc, c'est pas. Je pense que ce qu'on fait, c'est rien de rétrograde. Enfin, je vois pas trop ce que c'est que la musique rétrograde de toute façon, mais on risque d'avoir quand même une moyenne d'âge relativement élevée, hein, faut pas non plus se faire trop d'illusions. Ce qui est bien effectivement, c'est ce qui m'avait plu moi quand L300 a proposé l'histoire, c'est que c'était de trouver un lieu un peu atypique justement, c'était intéressant de le faire, et utiliser ce genre d'endroit qui est quand même super kitsch et assez chaleureux, c'est plutôt moi je trouve que c'est une bonne idée. Je sais que Daria avait fait un concert là-bas, malheureusement j'étais pas là, moi j'ai pas pu y aller, mais j'avais entendu dire que ça s'était plutôt pas mal passé aussi. Malik du Boléro nous a tout de suite ouvert les portes, il a dit oui, ok, il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Donc c'était la première fois que quelqu'un au Boléro nous disait ça, donc on est quand même un peu hyper ému. Et puis au final, au moins ça fait un petit événement, quoi. C'est vrai qu'il y a un nouveau label dans un lieu un peu atypique, une asso entre guillemets de jeunes puisqu'ils sont tous nés dans les années 90, qui va recevoir des vieux, enfin voilà, c'est...
Et un dernier mot peut-être
sur partout culturel. Multiculturel, comme dirait le Shabada.
La scène, la jeune scène musicale angevine aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire un petit comparatif par rapport à il y a 25 ans ? Qu'est-ce que vous en pensez de la scène aujourd'hui ?
Je la connais pas trop en fait. Je peux pas citer de groupe comme ça. Après, j'en ai vu pas mal, effectivement. Il y a toute la Raya, Eagles Gift et compagnie, là, qui commence à faire parler d'elle, les Shiraf et autres. Il y a toujours Daria qui fait maintenant office de vieux groupe, finalement. Après, il y a les, comme tu disais, Cyriel, le groupe du fils de PY, là, avec les gamins qui prennent le relais aussi. Donc, 15, 16, 17 ans qui s'y mettent. Donc, ça reste, il y a les Pistolets aussi avec Antoine, qui a longtemps officié ici même, qui fait lui plutôt dans le trash, le blues trash, mais il y a une scène folk, enfin bon, ça se barre un peu dans tous les sens en fait. On retrouve un peu l'effervescence qu'il y avait avant la fossilisation du Shabada en fait, c'est-à-dire que de nouveau il y a des initiatives, ça redémarre un peu dans tous les, ça bourgeonne un peu partout en fait, et il y a des assos, il y a des lieux qui s'ouvrent, il y a le Joker Pub, il y a le Boléro qui fait des concerts maintenant, il y a toujours le Shabada, donc tout ça, ça disons que j'ai envie de dire, les fenêtres s'ouvrent de nouveau et on trouve plein de choses effectivement. Après je suis pas tout très près, mais
ça fait du bien d'entendre ça. Donc, le concert, c'est jeudi prochain, 21 mai, oui. Au Boléro. Les horaires, les infos pratiques.
Alors, c'est à partir de 19h30. Les places sont en pré-vente sur Wiz Event ou au Donald's Pub. Donc, à 5€ au Donald's Pub et un petit peu plus sur Wiz Event, 5,99€, je crois, avec les frais de location. Il nous reste peu de places. On peut le dire maintenant.
Ouais, parce que c'est quand même pas le Boléro, c'est pas Bercy non plus, donc il doit rester une trentaine ou une quarantaine de places à vendre en fait. Donc tout ça pour dire qu'il faut pas trop tarder, faut effectivement. Après, il faut chercher sur Facebook, le Facebook Ultrason, celui du Casbah Club, il y a le lien pour acheter la billetterie. Les concerts démarreront dès 20h30, il y aura une présentation du label avant et il faut que ça soit fini à 11h.
Bon.
Non, pas, c'est pas lié à notre âge, hein, c'est lié à l'organisation du Boléro en fait.
Merci beaucoup Casbah et Cyriel d'avoir été dans le sous-marin ce soir, et puis tout de suite pour se mettre en jambe un petit peu, on écoute Casbah Club avec Days of September.
Oh, quel chef-d'œuvre. Merci. Have you heard about the story? No radio.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, ça se passe au Brin Folk. Johnny Clash y fait son dernier show. Rendez-vous à 21h, un peu de nostalgie pour une soirée radio americana. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Depuis 10 ans, Joe est le pape du reggae sur Radio Campus Angers le lundi soir avec Bamboo Station et avec toujours cette même intro.
Yes, 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 les petites mouettes, vous êtes bien sur le 103 FM, Radio Campus Angers, Bamboo Station, votre émission reggae tout lundi soir entre 23h et minuit. Donc au programme ce soir pour l'émission, bah, ça va être un petit peu plus calme que la semaine dernière pour la spéciale dub reggae digital. Ça va taper un peu moins et ça va être beaucoup plus roots. Donc trame habituelle pour l'émission, donc on va commencer par les B.A.B.A. du reggae, on va enchaîner avec les nouveautés de la semaine. Et je peux vous garantir que les nouveautés que j'ai trouvées cette semaine, elles sont rudement sympas, elles tapent sévère. Et les coups de cœur, comme toujours, pour finir l'émission. Donc, comme d'habs, on va pas perdre de temps. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de son à mettre sur une heure d'émission. Donc, on va commencer tout de suite par un groupe. Ça fait trop longtemps que ce groupe-là est passé dans Bamboo Station. C'est vraiment un des B.A.B.A. C'est vraiment un des piliers dans le monde du reggae. Voilà, j'ai nommé les Gladiators. Les Gladiators avec le morceau Jaworks, tiré de leur album Proverbial Reggae, sorti en 1978. Hey!
C'est la fin de ce sous-marin. Merci à Hugo pour la réalisation. Nous on se retrouve demain à 19h. On parlera d'écologie urbaine. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.